Cadeau. Dans cette édition, on vous parle d'énergie et plus particulièrement de solaire. On revient aussi sur le feuilleton de la Tour des Juges avant de nous intéresser à l'élaboration d'une filière sur le tapas. Le journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Thierry, bonjour à toutes et à tous.
On parle d'énergie avec le pays qui freine sur les fermes solaires.
Oui, alors il existe 4 projets de grandes centrales photovoltaïques qui sont prévus à Tahiti. 4 projets portés par les groupes Moox, Sioux et Engie. Ils sont en construction à la Presqu'île et à Mataya et ils devraient entrer en opération dans le courant de l'année prochaine. Mais le pays avait promis une deuxième vague de projets et même lancé un appel à candidature en octobre. Eh bien cet appel vient d'être retiré. Pour les professionnels, ça n'est pas vraiment une surprise et c'est même un soulagement, Charlie René.
Et oui, car une bonne partie du secteur des énergies renouvelables demandait le retrait de cet appel à candidature en pointant qu'il avait conservé le même cahier des charges que celui de 2021. Un cahier des charges trop contraignant pour les promoteurs qui oblige notamment à équiper les centrales de lourdes batteries et à garantir à l'avance sa production sous peine de pénalité. Les professionnels, eux, veulent de la souplesse et proposent, comme la TEP d'ailleurs, de placer des batteries directement sur le réseau plutôt que dans les centrales. D'après le syndicat Synergie, cela permettrait d'optimiser la production solaire et surtout de faire baisser drastiquement le coût de l'électricité produite, Valdemar.
Et ces arguments ont visiblement été entendus par le pays, mais il y en a un autre qui pèse et c'est le foncier.
Oui, il en faut du foncier pour installer des milliers de panneaux solaires à moins qu'on les mette sur les toits. Les grands consommateurs comme les supermarchés ou l'industrie ont déjà sauté le pas depuis longtemps, mais les centaines de docks et de hangars de stockage ne sont pas équipés. Les professionnels veulent pouvoir y construire leurs centrales et pour ça, il ne faut pas s'embarrasser avec de lourdes batteries. Synergie propose aussi au passage de revoir le système de tarification du raccordement haute tension qui, d'après le syndicat, décourage de nombreux propriétaires. Bref, il y a encore à faire pour libérer l'énergie solaire.
Voilà, et à noter tout de même que pour éviter que ces fermes photovoltaïques ne consomment trop de foncier, le gouvernement avait encouragé les projets mixtes solaire et agriculture. C'est le cas de celui du groupe Sioux à Tarawa où les panneaux serviront d'ombrage pour les vaches. C'est aussi le cas pour le groupe Moox à Mataya où on fera du maraîchage bio sous la centrale. Ça n'existe pas qu'à Tahiti, du côté des Raromatei, plusieurs communes travaillent avec la société Akuo pour lancer des serres photovoltaïques.
La Tour des Juges, encore elle, est dans l'actualité.
Oui, d'abord avec ce communiqué de l'ISA, la Fédération Internationale de Surf, qui a été diffusé hier. La fédération, qui regroupe donc toutes les fédérations nationales et qui participe à l'organisation olympique, explique avoir fait des propositions alternatives à cette Tour des Juges en aluminium, voilà une dizaine de jours. Propositions qui permettaient de monter la nouvelle tour à terre, voire même de s'en passer, en utilisant des caméras à gros zoom, des grues ou des drones pour donner aux juges plusieurs angles de vue sur la vague. Des propositions qui aurait été ignorée par le comité Paris 2024 et par le pays qui a avancé dans le lancement du chantier. L'ISA se dit toujours prêt à travailler avec les autorités mais veut être clair. Elle est opposée à l'implantation de la tour en aluminium sur le récif. Le président du pays, Moetai Brotherson, a répondu à ce communiqué hier auprès de TNTV. Il estime qu'il est un peu tard pour se réveiller du côté de la Fédération internationale.
Et puis une autre organisation s'est exprimée au sujet de la tour.
Il s'agit de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature. L'un des plus importants réseaux mondiaux de protection de l'environnement. Deux de ses responsables nationaux ont donc signé une tribune dans le journal Le Monde, dans laquelle ils constatent que le projet Tour des Juges n'a jamais fait l'objet d'études d'impact environnemental. Alors ça en soi, c'est pas une nouveauté. La tour, qui est une structure temporaire et marine, ne rentre pas dans les critères du code de l'environnement pour avoir besoin d'une telle étude. Mais justement, l'UICN estime que les mésaventures du site de surf olympique doivent pousser les autorités à réformer les règles.
Oui, c'est ça. En fait, le code de l'environnement, il n'y a que 3 pages, finalement, sur l'étude d'impact. C'est très, très léger. Dans d'autres pays, et même en France, il y a tout un pavé, en fait, sur la codification des études d'impact, qui est beaucoup plus carré ailleurs, pour justement éviter ce type de situation. Parce que l'évaluation environnementale, pour rappel, c'est vraiment un processus qui vise à intégrer l'environnement dans l'élaboration des projets dès le tout début des réflexions. Donc, elle permet aussi de garantir l'information, la transparence de l'information et la participation du public dès le début. Et là, visiblement, c'est ce qui a manqué. Et c'est ce qui continue à manquer sur beaucoup de projets qui sont menés en Polynésie.
Anne Caillot, la responsable outre-mer de l'UICN, elle est basée en Polynésie. Elle fait partie de ceux qui ont suggéré cette tribune aux responsables parisiens de l'organisation. Les deux signataires, la présidente du comité français et le président du groupe d'experts outre-mer, expliquent que le cas de la tour est symptomatique d'un manque d'encadrement environnemental des projets au Fénois. Parmi les exemples cités, toujours côté Jeux Olympiques, le récent remblayage du Domaine Rose, une zone humide qui va accueillir une partie du village olympique au PK0, ou encore la rénovation de la marina de Teahupo'o, qui a bien fait l'objet d'une étude d'impact, mais qui, dans une certaine indifférence, va détruire plus de corail que la tour des juges. Bref, il faut renforcer les règles du code de l'environnement, et ce, dans tous les domaines. L'UICN interpelle notamment sur la question de la protection des ressources en eau.
Ce qu'on souhaiterait, nous, et ce qu'on pensait qu'il serait peut-être important à envisager, c'est d'adopter une loi sur l'eau qui permette d'éviter des bétonnages de tronçons rivières au détriment des écosystèmes comme on en voit aujourd'hui. Et ce qu'on pourrait suggérer, c'est qu'avec l'adoption de cette loi sur l'eau, on pourrait aussi créer un établissement qui soit dédié comme un office de l'eau ou des agences de l'eau, comme il y en a en France, hein, qui permettrait de coordonner toutes ces actions d'intervention et de gérer les conflits d'usage pour mieux préserver les rivières et les milieux aquatiques qui aujourd'hui, malheureusement, sont en train d'être détruits.
Voilà, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui interpelle donc le gouvernement et les élus polynésiens, mais aussi le CESEC, qui pourrait par exemple s'auto-saisir du dossier et s'inspirer pourquoi pas des législations métropolitaines ou australiennes pour redresser la barre en matière d'environnement.
Il est 7h06, justice, Teura Iriti et Naya Bennett ont été auditionnés par la gendarmerie.
Ah oui, la Tavana Darué et l'ancien ministre des Sports ont passé plusieurs heures à la brigade de recherche hier, c'est une information de nos confrères de Polynésie la Première. Une enquête pour favoritisme et prise illégale d'intérêt avait été ouverte après que l'ancien maire Philippe Schill ait signalé des contrats passés entre la commune et l'ancien footballeur, qui est aussi le fils de l'ancienne première adjointe de Teura Iriti, Yolande Bennett, qui elle a déjà été condamnée à une peine d'inéligibilité. C'était dans l'affaire des procurations.
Côté économie, l'indicateur de climat des affaires est en baisse.
Moins 4,1 points au troisième trimestre, et ce, avant même que les débats sur la réforme fiscale et le budget aient commencé. Alors l'ICA reste toutefois largement au-dessus de sa moyenne longue, mais d'après l'IOM, les prévisions d'investissement sont en retrait après le boom de la sortie de Covid. Alors d'autres indicateurs sont toutefois au vert, hein. L'inflation annuelle qui passe sous la barre des 2%, le nombre d'immatriculations aussi qui augmente de 26% en un an, ou encore la perle et le tourisme qui affiche des chiffres records. En revanche, l'IOM note que l'investissement des ménages est contraint par les taux d'intérêt très élevés.
Et puis, Valdemar, on parle de ce partenariat.
Ah oui, celui du centre Arioi et celui de l'Agence française de développement qui lance une étude pour vérifier la faisabilité d'une filière dédiée au tapas en Polynésie. Filière qui pourrait être exploitée sous le prisme de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire avec des coopératives, des mutuelles, des associations, des fondations au mode de fonctionnement plus participatif que celui des entreprises. En Polynésie, seules deux structures, le centre Arioi et donc le Food and Cook Lab d'Audrey Lachaud, intègrent dans leur statut les principes de l'ESS. Mais il n'y a ni loi pour régir cette pratique, ni même connaissance du concept alors qu'un vivier existe. Lucille Bambridge est coordinatrice de l'étude, elle qui vient d'être lancée. Elle est au micro de Delphine Barret.
On s'est aperçu là depuis les derniers mois qu'il y a une vraie méconnaissance hein, à l'échelle globale sur le territoire déjà de l'existence de l'ESS. Quand je dis que c'est pas rien, en France, ça génère 10% du produit intérieur brut, plus de 2 millions quasiment et demi d'emplois et plus de 200 000 entreprises, plus derrière les associations, les coopératives. Il y a quand même un vrai vivier qui aujourd'hui pourrait en relever mais ne le sait pas.
Et le projet n'en est qu'à ses balbutiements, hein, puisqu'il faut d'abord vérifier l'intérêt économique, mais aussi humain et technique de cette filière tapas. Il faut aussi s'assurer de la disponibilité de la ressource et il faudra ensuite construire un cadre réglementaire, entre autres. Plus l'étude avance et plus les questionnements se précisent et se multiplient.
Donc une étude de pré-faisabilité où voilà, on questionne la pertinence, la viabilité, la cohérence aussi. Est-ce que ça répond à un vrai besoin ? Si ça, bah, éventuellement, pourra se poursuivre par après une étude plus importante de faisabilité cette fois pour vraiment rendre opérationnel des scénarios qui seraient identifiés d'ici un an.
Et les premiers résultats de cette étude au sujet de cette filière tapas, ils sont attendus pour novembre prochain.
Inforoute pour terminer à Hitia. La circulation est rétablie en alternance au PK43.
Ah oui, rappelez-vous, il y avait eu un éboulement fin juillet. Le pays avait entrepris des travaux de sécurisation d'un virage à partir d'octobre et pour une durée de 22 mois. Ils ont nécessité une fermeture partielle de la circulation en journée. Et conformément au calendrier prévu, il est de nouveau possible de circuler à toute heure depuis hier, mais en alternance au niveau du PK43, donc sur une voie, comme c'est le cas depuis le début du chantier, en dehors des horaires de travaux. À noter toutefois que les travaux vont reprendre du 15 janvier au 15 mars avec de nouveau des fermetures partielles aux mêmes horaires que lors de la première période de octobre, donc jusqu'à mardi, soit de 8h30 à 15h30 les lundis, mardi et jeudi et de 8h30 à 11h les mercredis et le vendredi. On vous tiendra au courant au moment de la reprise de ces travaux. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir écouté. Quant à nous, on se retrouve dans une vingtaine de minutes pour votre revue de presse locale. Ce sera à 7h30.
Merci beaucoup Valdemar. Il est 7h10.